Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour 2 heures d'infos avec vous et toute la rédaction. Ce soir à la une, Jean-Michel Blanquer face au harcèlement scolaire. Depuis ce matin, RTL enquête sur ce phénomène bête et méchant. Des élèves de 6e moqués, brutalisés, leur seul tort, être nés en 2010. Cette haine absurde s'est propagée en ligne et elle s'invite dans les cours de récré au collège. Le ministre de l'Éducation tense les réseaux sociaux, écrit au chef d'établissement. Il sera notre invité à 18h15. Les autres titres à la une maintenant, à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. 22 secondes, mais une éternité. La bande-son du début de l'attaque du Bataclan diffusée aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre. Trop dur pour certaines parties civiles. Elles ont quitté la salle. La découverte d'un corps calciné dans une cité des quartiers nord à Marseille, la même où une autre victime avait été brûlée vive dans un règlement de compte en août dernier. Et puis des Français qui se lavent moins les mains et se claquent à nouveau la bise. Oui, les chiffres de l'épidémie s'améliorent, mais non, il ne faut pas oublier les gestes barrières. Les courses en nocturne ce soir à Vincennes pour le Quintet Plus. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 7, le 12, le 13, le 3, le 9, le 4 et le 16, dernière minute, le 13.
Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, l'Australie boude de la France et choisit les sous-marins américains. Oui, mais des sous-marins nucléaires. Est-ce la porte ouverte à de nouvelles transactions atomiques, nous nous interrogerons. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière, Juliette Armanet est de retour. À 18h40, comme chaque vendredi, avec vous Marion, on va refaire nos régions, 20 minutes au plus près de chez vous, de vos idées, de vos combats, de nos terroirs. Au menu aujourd'hui, un hélicoptère au Mont-Saint-Michel, la chasse à la marmotte, oui oui, dans les Alpes, du pop-corn breton et un forésien à Dubaï. À 19h15, ils refont la France, les journalistes étrangers et leur regard sur notre actu très tricolore autour de vous, Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Le programme ?
Eh bien, on parlera de l'Arc de Triomphe revisité par Christo. Nos voisins étrangers sont-ils emballés ? C'était facile à faire.
Oui,
à tout
oui,
à l'heure, 19h15.
Quel esprit, c'est incroyable. Et puis tout au long de l'émission, vos points météo. Claire Delorme, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance ?
Très schématiquement, l'Est qui résiste avec du beau soleil et puis l'Ouest soumise à une nouvelle perturbation, le tout avec des températures stationnaires.
Le détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
De l'appréhension, mais malgré tout, une forte attente. La salle d'audience du procès des attentats du 13 novembre n'a jamais été aussi remplie qu'aujourd'hui.
Des parties civiles venues en nombre, donc, pour suivre cette audience consacrée au massacre du Bataclan, avec la diffusion d'un petit extrait sonore de la soirée issu d'un dictaphone oublié dans la salle. Cindy Hubert, vous êtes au Palais de Justice de Paris pour RTL. 22 secondes et beaucoup d'émotions.
D'emblée, l'enquêteur prévient. C'est peut-être le moment le plus délicat pour moi. Ça ne dure que 22 secondes. C'est une éternité. À mes yeux, cela donne une idée du côté brusque de la barbarie de l'instant. Un avocat des parties civiles se lève. Il dicte à nouveau le numéro d'urgence à appeler en cas de besoin pour toutes les victimes qui écoutent l'audience chez elles à travers la web radio. La musique commence et très vite, les coups de feu résonnent dans la cour. Un bruit de l'arsène qui s'étire, les balles qui claquent, silence. Certaines parties civiles n'osent pas rouvrir les yeux, d'autres sortent de la salle pour pouvoir se serrer dans les bras. Le policier a choisi de lire dans sa voix les paroles des terroristes ce soir-là et il met le ton. 8 minutes 56, François Hollande a joué au cow-boy, l'heure de la vengeance a sonné. 12 minutes, je t'avais prévenu de pas bouger, coup de feu. 1h26, la BRI est déjà là. Casse-toi, sinon je fais sauter les otages, adios. L'enquêteur voudrait conclure, mais il n'arrive pas à finir sa phrase. Je souhaite bon courage aux parties civiles.
Compte-rendu d'audience signé Cindy Hubert pour RTL. Autre procès qui se profile dans un dossier terroriste, celui des attentats de Bruxelles qui avait fait 32 morts en mars 2016. Salah Abdeslam et 9 autres accusés ont été renvoyés aujourd'hui devant les assises.
Ils pensaient intervenir pour un feu de broussailles. Ils sont tombés sur un corps calciné. Macabre découverte des pompiers à Marseille la nuit dernière.
S'agit-il d'un nouveau règlement de compte ? Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée. Étienne Baudu, vous êtes le correspondant de RTL à Marseille. Le corps a été retrouvé dans une cité des quartiers nord connue pour ses trafics.
Oui, dans la cité du parc Corot, une copropriété privée réputée malfamée. D'ailleurs, à quelques centaines de mètres de là, un autre corps calciné avait été retrouvé dans le coffre d'une voiture le 22 août dernier. On en avait beaucoup parlé, le malheureux avait été brûlé vif. Alors cette fois-ci, il semblerait que la victime ait été tuée avant que son corps ne soit transporté dans ce terrain vague, puis incendié. Tuée à coups de couteau ou par arme à feu, difficile à dire pour l'instant. Le corps est très abîmé, vous vous en doutez. Seule certitude, il s'agit d'un homme de petite taille, d'où une première hypothèse, pourrait-il s'agir d'un mineur, d'un adolescent? Des prélèvements ADN ont été effectués, une autopsie doit être pratiquée. Sans identité, impossible de savoir si cette affaire peut être reliée à un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Reste que ces pratiques abominables ont cours dans ce milieu pour impressionner l'entourage de la victime, pour intimider d'éventuels concurrents dans une lutte de territoire, pour effacer toute trace d'un méfait.
Les précisions d'Étienne Baudieu à Marseille pour RTL. C'est le genre d'histoire qui laisse les parents un peu démunis. Comment réagir? Comment faire en sorte que son enfant parle? La question se pose à nouveau avec l'utilisation de ce hashtag anti-2010 sur les réseaux sociaux en référence aux enfants nés cette année-là, des enfants qui viennent d'entrer en 6e et qui subissent aujourd'hui la pression des plus grands.
Alors, on va en parler dans un instant sur RTL avec notre invité, le ministre de l'Éducation nationale, à 10 minutes maintenant, Jean-Michel Blanquer. D'ores et déjà, le réseau TikTok a supprimé ce hashtag, mais qui court, en fait, on le découvre, depuis plusieurs mois, comme l'a raconté cette maman à Pascal Praud tout à l'heure sur RTL.
L'année dernière, dès le mois de septembre, il m'a tout de suite dit « Maman, on n'arrête pas de se moquer de moi, j'en ai marre, on me dit 2010. C'est un 2010, tu joues pas avec nous. » Alors ça a duré, je vais dire, un petit mois, jusqu'à un soir où il m'a dit « Maman, je retourne plus à l'école. » J'ai immédiatement contacté la CPE de l'établissement en disant que là, vraiment, ça s'apparentait à de l'harcèlement. Elle a immédiatement pris la chose au sérieux et elle a convoqué mon fils pour savoir ce qui se passait avec certains camarades identifiés qui tenaient ses propos et qui l'écartaient.
Et ça s'est calmé?
Ça s'est calmé immédiatement. Il est en 5e aujourd'hui et croyez-moi que tout à l'heure, quand il va rentrer de l'école, je vais immédiatement lui en parler et lui dire qu'il a bien fait de me l'avoir dit. Et
bien
qu'effectivement,
sûr.
Je m'excuse parce que je pensais que c'était qu'une simple moquerie.
Le témoignage de Sandra dans Les Auditeurs ont la parole tout à l'heure.
Allez, une pause et dans un instant sur RTL, dans ce journal, le recul de l'épidémie qui se confirme en France. A tout de suite dans RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et donc la suite de votre journal, 18h08, vous écoutez RTL, on en vient à ces indicateurs au vert, à cet étau qui se desserre, voilà de quoi donner un peu de baume au cœur avant le week-end.
Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Les derniers chiffres le confirment, l'épidémie régresse partout en France et dans toutes les tranches d'âge.
Oui, avec un taux d'incidence qui est repassé en dessous de 100, il frôlait les 250 il y a un mois, il y a même eu 20% de nouveaux cas en moins chez les moins de 18 ans en une semaine, et pour l'instant il n'y a pas d'effet de la rentrée scolaire sur l'épidémie, mais les autorités veulent attendre encore le milieu de la semaine prochaine avant de crier victoire.
Et la tendance est tellement bonne, Virginie, que certains départements commencent à alléger leurs protocoles sanitaires.
Voilà, le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur dans les centres-villes en Haute-Savoie. Décision prise hier par le préfet. Même chose en Savoie et dans l'Hérault. Enfin, le confinement sera maintenu, mais allégé aux Antilles à partir de lundi, avec un couvre-feu jusqu'à 20h.
Alors, au risque de jouer la rabat-joie de service, attention quand même à ne pas tout relâcher trop vite.
Et oui, car une étude de Santé publique sur le comportement des Français montre depuis le début du mois un léger relâchement. Le nombre de personnes qui déclarent se laver régulièrement les mains a baissé de 2 points, 58%. Celles qui évitent les poignées de main et les bisous en baisse de 3 points. Alors attention, les vagues peuvent revenir très vite et surtout les médecins craignent un retour assez fort des épidémies d'hiver. La gastro est déjà là. Le barrage le plus efficace, c'est de bien se laver les mains.
On n'oublie pas les gestes barrières, Virginie Garin, merci. Comme un air de campagne, Éric Zemmour attendu dans moins d'une heure, maintenant au Palais des Congrès à Toulon.
Où il fera face à 800 personnes. William Galibert, vous êtes sur place pour RTL. Le polémiste a été invité pour présenter son dernier livre dans le cadre d'un festival culturel, mais ce soir, la rencontre littéraire frise avec le meeting politique.
Oui, c'est ça Julien, parce que dans la file d'attente qui est déjà très dodue, une foule aux tempes plutôt grisonnantes, on trouve plus des fans purs et durs d'Éric Zemmour que de simples amateurs de littérature. Ils ont des t-shirts à l'effigie de leur champion ou déjà son livre à la main. Et à l'image de ce retraité que j'ai croisé, ils savent que oui, c'est une soirée qui s'annonce très politique.
Ça serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Ce qui est fabuleux, c'est qu'avec toute la censure qu'il subit, ça lui fait une publicité magnifique. Bravo la censure. Et bravo les autres, ça nous fait du bien parce que du coup on voit plus que lui tous les jours et c'est bon pour lui.
Alors, ça n'a pas de valeur de sondage, mais tous ceux que j'ai croisés ici ce soir, tous sans exception, veulent qu'Éric Zemmour franchisse le pas, qu'il se présente à la présidentielle. L'homme du soir, on l'a compris, continue d'entretenir le suspense autour de son choix. Mais demain, avant de remplir une nouvelle salle de 800 personnes, Éric Zemmour ira déambuler dans les allées du marché aux fleurs de Nice et il rencontrera ses jeunes supporters. Avouez que ça ressemble davantage au programme d'un presque candidat qu'à celui d'un écrivain en goguette.
William Galibert à Toulon pour RTL.
Marine Le Pen, elle, alerte Emmanuel Macron sur les difficultés d'accès au financement de la campagne présidentielle. Elle demande au Parlement d'ouvrir de nouvelles pistes, alors que le Rassemblement national, très endetté, a du mal à se financer auprès des banques. Et puis, loin, très très loin de l'objectif de 1,5 degré, le secrétaire général de l'ONU sonne l'alerte. Aujourd'hui, le monde se dirige vers un réchauffement à 2,5 degrés, chemin catastrophique, dit Antonio Guterres.
À 6 semaines de la COP26.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Rabibochage en vue entre le PSG et ses supporters. Il y avait de la friture sur la ligne après le changement de musique opéré par le club pour l'entrée des joueurs sur la pelouse du Parc. Un morceau de DJ Snake qui avait été composé au départ pour la présentation de Messi avait été diffusé lors du dernier match au Parc contre Clermont. Et bien ça, c'est fini. Phil Collins, c'est lui qu'on entend. Reviens au Parc. C'est ce qu'a écrit le PSG sur Twitter cet après-midi. Son Who Said I Would résonnera bien dimanche pour le match contre Lyon.
Oui, et les supporters du PSG en régie sont absolument en fusion. Voilà. Moi, je préfère Van Halen, mais bon, chacun son truc. Merci beaucoup, Marion. On se retrouve tout à l'heure. Le temps maintenant, Claire. Alors, dites-nous tout. Pour demain, ça se gâte, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, surtout par l'ouest, on a des nouvelles perturbations qui arrivent donc dès ce soir, si ce n'est déjà le cas, justement, par la Bretagne, et qui, demain matin, eh bien, tout simplement, va progresser vers la Normandie, toute la façade atlantique, apportant des pluies qui seront d'ailleurs beaucoup plus soutenues sur la partie sud accompagnée d'orages. Dans l'après-midi, ça va s'ennuager progressivement vers la Normandie, le Massif central, avec là aussi de bonnes averses qui seront plus actives justement sur les reliefs, avec en plus un coup de tonnerre. Mais par contre, la façade est du pays, quant à elle, résiste sous un beau soleil, avec un petit peu de vent quand même en fin de journée. Mistral et Tramontane en basse et moyenne vallée du Rhône. Pour les températures, le matin, il faudra compter entre 11 à 15 degrés en général. Et puis donc dans l'après-midi, des maximales qui oscilleront entre 18 et 23 degrés en général, avec quelques petits points, quelques petites pointes, on va dire, supplémentaires de 23-26 degrés localement sur le quart sud-est.
Merci Claire. Allez, une pause, courte pause sur RTL et ensuite quand la bêtise s'invite dans les cours d'école. Jean-Michel Blanquer sera notre invité dans un instant, le ministre de l'Éducation qui riposte après le harcèlement en ligne et au collège d'élèves de 6e. Leur seul tort, c'est absurde, être né en 2010.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, RTL Soir vous accompagne, RTL Soir continue et depuis ce matin avec la rédaction, vous l'avez entendu, nous enquêtons sur cette vague déconcertante de harcèlement scolaire. Vous les parents, vous les grands-parents, derrière votre radio, vous avez sans doute été interpellés, abasourdis, puisque des enfants de 10-11 ans, des élèves de 6e, sont moqués, brutalisés. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils sont nés en 2010. Alors, cela vous semble sans doute absurde, et pourtant, le mot-clé anti-2010 s'est propagé sur les réseaux sociaux.
Parce qu'il est important de savoir qu'il y a deux sortes de 2010. Dans un premier temps, il y a le 2010 extrêmement toxique, qui pense qu'il est plus fort que tout le monde, qu'il est le meilleur, etc.
Alors ça, c'est un extrait d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Ce harcèlement en ligne, il s'invite désormais dans les cours de récré. Bonsoir Jean-Michel Blanquer.
Bonsoir.
Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ce soir, vous montez au créneau en personne sur RTL pour dire stop. Vous avez posté d'ailleurs hier soir une vidéo, vous aussi, sur les réseaux sociaux. Dites-nous, cette vague de harcèlement, quand l'avez-vous repérée? Dès cet été, à la rentrée?
Non, là, repérée comme montante depuis la rentrée, et j'ai estimé que vu le degré que ça avait atteint, il fallait que j'intervienne personnellement. Alors on a aussi une stratégie en profondeur contre le harcèlement, hein. On a un programme qui s'appelle Phare, qui justement entre en vigueur à cette rentrée et qui est fait pour que dans chaque établissement, et donc en l'occurrence dans chaque collège, aussi bien les adultes que les élèves soient mobilisés contre le harcèlement. Mais là, il me semblait nécessaire de renverser la tendance, si vous voulez, c'est-à-dire non seulement de dire qu'on doit lutter contre ce phénomène absurde, mais qu'en plus on doit bien accueillir les élèves de 6e. Ouais. Et donc c'est en quelque sorte le mouvement inverse qu'il faut enclencher maintenant.
On a du mal à mesurer l'ampleur du phénomène. Tiens, je voudrais vous faire écouter ce matin ce petit garçon de 6e qui s'est confié à RTL.
Surtout pour les 2010, il faut faire très attention et un peu cacher son téléphone. et les 2010, faut pas trop aller sur les réseaux sociaux.
Ça paraît fou, Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous avez déjà des retours, chiffrés ou non d'ailleurs, de harcèlement dans des collèges ?
Alors d'abord, c'est important de relever ce que dit cet enfant, c'est-à-dire le fait que le mieux, c'est de ne pas aller sur les réseaux sociaux. À cet âge-là, ils ne sont pas censés le faire. Et je rappelle que nous avons aussi interdit l'usage du téléphone portable au collège depuis 3 ans. Hein, c'est une mesure effective, qui a eu d'ailleurs un effet positif pour la concentration des élèves, par exemple, et puis pour le fait qu'ils ne perdent pas de temps avec des absurdités pareilles. Donc le phénomène, on l'étudie là sur les réseaux sociaux. On n'en a pas encore la mesure exacte. On espère surtout que maintenant, depuis hier soir et les réactions que nous avons commencé à susciter partout, on va totalement l'endiguer. Que ça va devenir ridicule pour un jeune collégien que de se positionner comme ça sur le anti 2010 et qu'au contraire. La mode nouvelle va être une note positive, c'est-à-dire une note de bienvenue aux élèves de 6e.
Sur ce harcèlement, on peut presque parler de bizutage. Est-ce que vous avez envoyé des directives claires aux chefs d'établissement ces dernières heures pour essayer d'endiguer le phénomène, justement ?
Oui, j'ai écrit hier à tous les principaux et toutes les principales de collèges de France pour leur signaler le phénomène. En général, ils avaient commencé à le voir. Et aussi rappeler donc tous les outils que nous avons contre le harcèlement. Je rappelle que le 30-18 et le 30-20 sont les appels que l'on peut faire, que tout un chacun peut faire contre le harcèlement. Hein, le 30-18 contre le harcèlement et le 30-20 contre le cyberharcèlement. Et puis surtout, j'ai demandé aux principaux de collège de mettre en vigueur aussi rapidement que possible ce programme phare, qu'on appelle phare, donc parce que c'est un programme contre le harcèlement, et qui vise à avoir à la fois des équipes mobilisées dans les collèges, souvent autour du conseiller principal d'éducation pour repérer le harcèlement et évidemment y porter remède chaque fois qu'il est repéré, et puis aussi avoir des ambassadeurs parmi nos élèves, puisque le but, c'est que des élèves se mobilisent dans chaque collège pour être contre le harcèlement. Et c'est la responsabilisation de tous, élèves, professeurs, chefs d'établissement, conseillers principaux d'éducation, mais aussi les parents d'élèves. C'est tous unis qu'on va aller contre le harcèlement, parce qu'au-delà de ce phénomène de cette rentrée, vous le savez, c'est un sujet que j'ai souhaité prendre à bras-le-corps et pour lequel parfois nous remportons quelques petites victoires. Et
est-ce que vous avez aussi saisi, alerté les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram, entre autres ? On sait que Brigitte Macron doit rencontrer le patron d'Instagram lundi sur cette question, notamment du harcèlement scolaire. J'imagine que ce hashtag sera abordé.
Oui, bien sûr. Alors nous en parlons souvent avec Brigitte Macron et vous le savez, nous sommes allés souvent dans les établissements pour lancer ces campagnes contre le harcèlement. Donc nous sommes actifs aussi dans la relation avec les plateformes. Elles n'ont pas toutes la même réactivité et j'espère que le phénomène d'aujourd'hui va les pousser à aller encore plus loin, à la fois pour lutter contre les contenus haineux quand ils touchent les mineurs et donc avec une capacité à retirer ces contenus dès qu'ils sont repérés, et puis aussi à avoir des campagnes de sensibilisation qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la fraternité et de la lutte contre le harcèlement.
Clairement, ces réseaux aujourd'hui ne sont pas à la hauteur en termes de lutte contre le harcèlement.
Ça dépend
scolaire.
Lesquels. Oui, mais on peut dire qu'ils ne sont pas complètement à la hauteur. Certains me signalent maintenant qu'ils veulent bouger plus. Eh bien, tant mieux, mais ils ont encore de gros efforts à faire. Et je les recevrai prochainement dans de nouvelles rencontres pour leur demander d'aller plus loin. Et c'est aussi sur ces sujets-là que nous sommes mobilisés avec Brigitte Macron.
Revenons sur la rentrée scolaire, mais sur le plan sanitaire maintenant, Jean-Michel Blanquer, vous aviez affirmé avant la reprise des cours que l'école protégeait. Alors les syndicats d'enseignants et les médecins n'étaient pas franchement d'accord. Au dernier pointage ce matin, 3299 classes fermées, soit 0,63% des classes. On voit les taux d'incidence chez les moins de 9 ans qui baissent. Hormis dans les Hauts-de-France. Est-ce que c'est encourageant ?
Oui, même si c'est trop tôt pour tirer de trop rapides conclusions, mais pour l'instant, ce que j'observe, c'est la courbe que j'ai observée au retour de chaque vacances, et je l'avais dit avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire une courbe un peu en cloche, c'est-à-dire une montée très forte au cours des premiers jours, souvent d'ailleurs de la part d'enfants contaminés pendant les vacances, et puis un plateau et enfin une décrue. Donc les derniers chiffres que nous avons semblent accréditer cette courbe, mais c'est trop tôt pour être certain. En tout cas, ça nous permet de maintenir les écoles ouvertes, les collèges et les lycées ouverts. Comme vous le savez, c'est notre grand objectif. Et ce 0,6% de classes fermées dans les écoles primaires, c'est le prix à payer pour maintenir tout le reste ouvert. Mais bien entendu, j'espère que ce chiffre va baisser au cours des prochains jours et nous avons toute la vigilance nécessaire pour qu'il en soit ainsi.
Un mot de nos enfants, toujours de leurs activités sportives pour les 12-17 ans. Dans 15 jours, il faudra un pass sanitaire pour pratiquer le foot, la danse, le judo, j'en passe en club. Les fédérations s'inquiètent puisque les chiffres de l'épidémie sont encourageants. Est-ce que vous comptez laisser un délai supplémentaire à nos adolescents ?
À ce stade, ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était justement annoncer de longue date, inciter nos adolescents à se vacciner pour tout simplement pouvoir vivre bien aussi bien à l'école que dans les activités périscolaires. Mais nous accompagnons beaucoup les clubs pour que les choses soient facilitées dans cette phase qui est compliquée, notamment avec la mesure passeport qui est faite pour donner un chèque passeport de 50 euros à chaque famille pour s'inscrire dans les clubs. Donc mon message, c'est surtout un message aux familles pour faire vacciner les 12-17 ans. Là aussi, on a des chiffres encourageants parce qu'on est en train de dépasser les 70%. Mais il faut maintenant aller plus loin de façon à ce que tout ceci bénéficie
vous
à
dites
la fois à chaque adolescent
stade,
et à la société tout entière.
Vous dites à ce stade, ça veut dire qu'un report n'est pas exclu de cette date du 30 septembre ?
Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que sur tout sujet concernant la crise sanitaire, je dis toujours à ce stade parce qu'on doit toujours être attentif aux évolutions, mais il n'y a pas de changement à court terme prévu.
Pour terminer, Jean-Michel Blanquer, puisqu'on parle de sport, devant nos médaillés olympiques cette semaine, Emmanuel Macron a fixé un objectif très ambitieux pour les JO 2024 à Paris. Vous-même, vous aviez parlé de 80 médailles avec une volonté, je vous cite, de plus que doubler nos résultats. Le judoka Teddy Riner s'est confié à RTL sur cet objectif. Tiens, écoutez-le.
Tu veux que je te dise la vérité ? La France est une grande nation du sport. Maintenant, se dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. J'aimerais qu'on me fasse mentir, hein, mais il faut faire beaucoup plus de choses pour pouvoir prétendre à 90 médailles en 3 ans. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement. On pourra toujours se cacher derrière le Covid.
Bon, pour notre champion, l'objectif n'est pas réaliste. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ?
Oh, je pense qu'il ne faut surtout pas s'arrêter à des questions de chiffres, puisque ça n'a finalement pas un sens très important. L'important maintenant, c'est d'avoir le maximum de médailles et en effet de se mettre en ordre de marche pour cela. C'est la mission qui a été confiée à Claude Onesta maintenant depuis quelques temps pour appuyer sur tous les leviers qui permettent de faire réussir nos sportifs. Et pour ma part, avec Roxana Maracineanu, je suis très mobilisé pour qu'il en soit ainsi. Ça signifie accompagner les fédérations en particulier et regarder notamment actuellement celles qui n'ont pas été les plus brillantes aux Jeux Olympiques pour voir quel est notre potentiel. Donc il y a toute une méthodologie développée par Claude Onesta et c'est ça qui nous permettra d'aller de l'avant. Mais il faut jamais cultiver le pessimisme en ces matières, il faut tout simplement être dans le volontarisme, réaliste bien sûr, mais le volontarisme quand même. Et je pense que là maintenant, l'objectif c'est pas tant de définir un chiffre, c'est pas tellement ça qui a du sens que de se dire qu'on veut le maximum de médailles et sport par sport, regarder comment l'accompagnement de nos athlètes nous permet de les mettre au maximum de leur performance dans 3 ans.
Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Merci.
Merci à vous. Merci.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Allez, on remarque une très courte pause et ensuite RTL Soir continue. L'Australie préfère les sous-marins américains à nos sous-marins français, mais ce fiasco du siècle pose question. Et si toute la planète pouvait désormais s'échanger des technologies nucléaires ? Nous allons nous interroger dans les dessous de l'actu. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Allez, bonne fin de semaine, vous écoutez RTL, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Et si vous allumez à l'instant la radio, eh bien c'est l'heure de refaire le point sur les grands titres de l'actualité, Marion Calais.
Avec Emmanuel Macron qui l'annonce à l'instant, le cap des 50 millions de primo-vaccinés atteints en France, un cap que le gouvernement espérait passer à la fin août. Il vient de le faire à l'instant sur RTL. Le ministre de l'Éducation nationale appelle les chefs d'établissement à la vigilance face au harcèlement, alors que certains élèves nés en 2010 ont fait l'objet ces dernières semaines d'insultes ou de menaces. Jean-Michel Blanquer indique par ailleurs qu'il recevra les représentants des réseaux sociaux pour évoquer le sujet. Et puis une dizaine de plaintes déposées en Guadeloupe pour des menaces de mort et des insultes liées à la crise sanitaire. Parmi les plaignants, le directeur du CHU local qui explique que son établissement a été accusé de pratiquer l'euthanasie et de tuer des malades.
Merci Marion, à tout à l'heure pour refaire nos régions sur RTL. Le temps maintenant, clair, côté ciel, c'est 2 salles, 2 ambiances, c'est ça pour demain ?
Exactement, l'est du pays résiste sous un très beau soleil alors que l'ouest, eh bien, va tout simplement simplement être soumise à une nouvelle perturbation apportant des pluies copieuses, surtout dans le sud-ouest, localement orageuses, d'ailleurs qui va investir le pays de la Normandie vers le massif central. Pour les températures, 11 à 15 degrés en général en matinée et jusqu'à 19, 23 degrés en général l'après-midi.
Merci Claire.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, RTL s'intéresse aux conséquences du fiasco du siècle. L'Australie boude donc les sous-marins français et choisit les navires américains avec une nuance et de taille, ce sont des navires nucléaires. Bonsoir Émilie Beaujard.
Bonsoir.
Washington va donc monnayer ses technologies nucléaires à un pays ami. Alors déjà, est-ce que c'est légal ? Parce que c'est vrai que l'Australie, jusqu'ici, ne possède pas d'armes atomiques.
Alors oui, c'est légal. Les États-Unis peuvent vendre des sous-marins à propulsion nucléaire, c'est-à-dire avec un moteur à énergie atomique. Ce qui est interdit, en revanche, par le traité de non-prolifération, c'est de vendre de l'armement nucléaire. Mais clairement, ce transfert de technologie interroge, car c'est le premier de ce type pour les États-Unis depuis plus de 60 ans. Le nucléaire, dossier hautement sensible, et c'est pourquoi les six pays qui détiennent aujourd'hui des sous-marins à propulsion nucléaire ont toujours été très frileux pour partager cette technologie très stratégique.
Mais du coup, prenons un exemple. Est-ce que demain, la Chine va, comme les États-Unis, pouvoir vendre ses sous-marins nucléaires à je ne sais pas, c'est purement théorique, mais la Corée du Nord ou le Pakistan ?
Eh bien, oui, c'est là tout l'enjeu. Cette transaction crée en tout cas cette possibilité. Si l'Australie peut acheter de tels engins, pourquoi d'autres pays ne pourraient pas effectivement ? Le rapport de force dans ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire pourrait bien changer radicalement ces prochaines années. Et tous les efforts de la communauté internationale pour réduire l'arsenal nucléaire dans le monde viennent de prendre un sacré coup.
Et puis il faut préciser que les moteurs des sous-marins américains sont très richement, hautement enrichis en uranium. Ça aussi, ça pose d'autres questions.
Oui, de l'uranium hautement enrichi, le même qui est à la base de la fabrication de la bombe atomique. On s'interroge donc sur l'Iran, à qui la communauté internationale demande de limiter son taux d'enrichissement. Cette transaction pourrait bien l'encourager à défier l'Occident.
L'éclairage d'Émilie Beaujard ce soir dans les dessous de l'actu sur RTL. Merci Émilie.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
18h33.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, c'est le moment de changer d'air tous les soirs dans RTL Soir. Laissez-vous tenter, dernière. Les chouettes conseils de la chouette bande de Laissez-vous tenter pour vos soirées. Ce soir, on vous conseille d'écouter un single parce que c'est le grand retour de Juliette Armanet. Bonsoir, Steven Bellery.
Bonsoir à tous.
4 ans après, Petite Amie, Juliette Armanet dévoile le premier extrait de son deuxième album.
Oui, un disque qui s'appellera Brûler le feu, sorti prévu cet automne. Juliette Armanet revient avec Le dernier jour du disco. Rien à voir avec la nostalgie des années 70, c'est une tornade pop dansante et addictive. La chanteuse de 37 ans introduit pour RTL sa nouvelle chanson.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main, c'est la fin.
C'est une chanson qui parle d'une sorte d'apocalypse joyeuse. Elle raconte un peu les dernières minutes avant qu'on rallume la lumière, les dernières minutes de la fête où le corps a exulté. C'est pas forcément une chanson disco, donc c'est un peu un faux ami, cette histoire du dernier jour du disco. Je crois que c'est aussi une chanson sur un grand amour, pour retenir l'amour avant qu'il ne fuit. Donc c'est une chanson sur un passage entre deux mondes, entre le jour et la nuit. Elle a un déclic très très personnel, l'histoire d'un deuil, voilà. Je l'ai écrite extrêmement vite. Et c'est toujours le signe pour moi des bonnes chansons qui viennent comme des fulgurances, à tel point que parfois, quand on se demande comment elles sont venues, on a déjà oublié. C'est très bizarre comme processus. À tel point que j'ai fait la démo avec cette voix comme un cri du cœur, quoi. C'était le premier geste qui était le meilleur. Donc en fait, on a gardé la voix du tout premier jour où je l'ai écrite, parce que c'était la plus pure, la plus vraie, la plus viscérale par rapport à la chanson. Et j'adore cette idée, quoi. Je crois que cette chanson parle pas du tout de la nostalgie du disco. Je crois que cette chanson, c'est un poème d'amour à quelqu'un qu'on veut retenir avant qu'il s'en aille, quoi.
C'est la fin.
C'est très réussi. Ça sent quand même le single qu'on va écouter en boucle et en boucle pendant des semaines.
Un des tubes de l'automne.
Effectivement, si on écoute dès aujourd'hui, l'album,
aujourd'hui
c'est pour quand ?
À novembre, on va dire.
Novembre, très bien. Merci beaucoup Steven Bellery, Juliette Armanet est de retour et on en est ravis. Allez, on marque marque une pause sur RTL et ensuite des musiques qui seront un peu plus régionales. On va refaire nos régions avec Marion Calais et tous nos correspondants partout en France. Comme chaque vendredi, c'est parti pour 20 minutes de découverte de gourmandise jusqu'à 19h sur RTL. Au menu notamment les journées du patrimoine, la chasse à la marmotte, oui, vous avez bien entendu, dans les Alpes, ou encore du pop-corn breton. A tout de suite sur RTL.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.